marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Le cinéma est un art présent. Parce qu'il ne faut pas croire que le cinéma est quelque chose de figé. Si on ne sait pas que le cinéma, c'est présent, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain et ce n'est pas hier.
Le cinéma est un art. Il s'inscrit dans l'histoire du temps présent, nous dit Sarah Maldoror, première cinéaste africaine dont l'œuvre antiraciste et décoloniale est présentée au Palais de Tokyo à Paris. Intitulée Sarah Maldoror, cinéma tricontinental, cette exposition est la première rétrospective consacrée au film de l'artiste, mais aussi à son travail théâtral, fiction et documentaire. Une œuvre poétique, une œuvre politique, ancrée dans le temps et dans la vie de Sarah Maldoror, dès les années 50 et les luttes de libération des trois continents colonisés, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Française, Sarah Maldoror est née en 1926 dans le sud-ouest de la France, d'un père guadeloupéen et d'une mère gersoise. Elle est décédée en 2020 du Covid. Sans Dieu ni maître, Sarah Maldoror a choisi son nom d'artiste, son mode d'expression et son combat.
Vous êtes une des très rares cinéastes féminines africaines. Est-ce que ça veut dire que vous vous intéressez surtout du sort de la femme africaine dans vos films?
Non, pas particulièrement. Le sort de la femme africaine n'est pas pour moi un problème particulier.
Mais qu'est-ce que vous pensez de la représentation de la femme africaine dans les films africains?
C'est-à-dire que pour le moment, en Afrique, la femme est considérée comme un objet, j'exagère, mais comme quelque chose de tout à fait secondaire. Alors, si je vois les films africains qui ont été faits sur la femme, c'est toujours... elle ne s'occupe que de ses pagnes, elle ne s'occupe que de sortir, ou elle ne s'occupe que de mettre des perruques. Donc, je trouve que c'est faux. Il y a autre chose en Afrique.
Lesquelles, par exemple?
Il y a des femmes qui sont au combat. Ça, on ne les voit jamais. Les films que nous avons vus ici à Ouagadougou, ce sont des femmes simplement occupées à changer de perruque. Je trouve que les cinéastes africains qui ont fait ça exagèrent, parce qu'il n'y a pas que ça en Afrique. Et c'est tout à fait secondaire, une femme qui se met une perruque.
Alors, pour vous, quel est le devoir du cinéma africain? Le but, doit être le but?
Moi, je trouve que ça doit être un cinéma de combat. Le cinéma est avant tout une arme. Ça, il faut bien, surtout pour un pays sous-développé, il ne faut pas oublier que nous sommes sous-développés, que la plupart des gens ne savent ni lire ni écrire. Bon, ça, c'est clair. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, nous devons faire un cinéma de combat, c'est-à-dire ne pas toujours montrer comme je le fais, moi, en prenant l'Afrique qui se bat. Hein. Mais il y a autre chose. Il y a comment arriver à faire comprendre aux gens le besoin d'apprendre, le besoin de s'en sortir, le besoin d'être soi-même.
Le cinéma est avant tout une arme, nous dit Sarah Maldoror. Il s'est interviewé au festival de Ouagadougou en 1972. C'est un document présenté au Palais de Tokyo dans la rétrospective préparée par les commissaires d'exposition Cédric Fauque et François Piron. Et François Piron est notre invité dans la Marche du Monde. Bonjour François.
Bonjour Valérie.
Je suis également très très heureuse de vous recevoir, Anouchka Dehandra, dont c'est même payé le luxe de se faire un petit tour dans l'expo, toutes les deux, histoire de raviver les souvenirs. Vous êtes l'une des deux filles, de Sarah Maldoror et de Mario Pinto de Andrade, sans lesquelles, évidemment, cette exposition n'aurait pu voir le jour. J'imagine que ce projet proposé par François vous a quand même surprise, parce que c'était très très peu de temps après la disparition de votre mère. Qu'est-ce que ça vous a fait, Anouchka? Et puis d'abord, bonjour.
Bonjour. Oui, ça nous a surpris parce que quand même ces dernières années, 10 bonnes dernières années, Sarah était plutôt négligée, on va dire, surtout en France. Elle ne pouvait plus travailler. Bon, c'est vrai qu'elle était âgée, mais bon, elle avait son dernier projet qu'elle voulait faire sur France Fanon, par exemple. Personne ne l'écoutait, ne la tenait en compte. Et donc, quand Cédric et François nous ont contactés en nous disant qu'ils avaient... le désir de faire une exposition sur Sarah, on a d'abord été surprise, bien évidemment flattée, mais intriguée en même temps. Et donc, on a demandé à les recevoir pour savoir quel était exactement le cœur de leur projet, avant de pouvoir totalement s'y investir. Et ça a été une collaboration, je crois, très, très fluide et très agréable, parce que du coup, on a dû fouiller, nous aussi, faire un travail...
Dans les archives.
Tout à fait.
Et rouvrir les cartons. Alors François Piron, lors de nos premiers échanges, vous avez tout de suite évoqué le choc qui a été pour vous la découverte de l'œuvre de Sarah Maldoror. Pourquoi ?
Parce que on a un petit peu connu l'œuvre de Sarah Maldoror à travers le travail de certains artistes, comme Mathieu Aboninck, par exemple, qui dès début des années 2010, et un peu avant même, a rencontré Sarah et a réalisé certaines œuvres à partir de son travail. Mais néanmoins, j'étais loin de savoir qu'il y avait une quarantaine de films à l'actif de la filmographie de Sarah. Et très vite, on a eu envie de faire un projet hybride avec Cédric, quelque chose qui puisse éclairer au présent, comme dit Sarah, son œuvre, qui puisse la montrer comme une figure inspirante de l'aujourd'hui, à travers également des productions d'artistes.
Alors justement, revenons sur la personnalité de cette pionnière du cinéma, des luttes de libération en Afrique lusophone. Je le précisais en ouverture de cette émission, elle a choisi son nom, son mode d'expression, et son combat. Alors, en ce qui concerne son nom, c'est celui emprunté à Lautréamont, à ses chants de Maldoror. Lautréamont, poète maudit du 19e, jamais diffusé de son vivant, et qu'on a redécouvert grâce au surréaliste Anouchka d'Andrade.
Choisir son nom quand on est afro-descendante, c'est vraiment un acte politique. Et ça, c'est le premier acte que fait Sarah quand elle arrive à Paris. Elle dit, voilà... Maintenant, je suis Sarah Maldoror et c'est avec moi qu'il faut compter. Donc c'est elle s'inscrit et tout de suite, elle choisit un nom poétique issu d'un poème surréaliste. C'est vraiment très très important et toute sa vie est en cohérence avec ce geste. Sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de faire des films, elle a été d'une très très grande liberté. Parfois, ça lui a coûté très cher, mais elle ne s'est jamais adaptée. Elle est restée telle qu'elle était.
Différents courants sont des clés de compréhension de l'œuvre de Sarah Maldoror. On vient de parler du surréalisme, il y a aussi la négritude, le panafricanisme et bien sûr le communisme, autant de marqueurs de ses pensées.
Moi, j'ai proposé qu'il n'y ait plus un seul festival en Afrique sans qu'avant que le festival commence, les écoles soient fermées et ce sont les enfants qui occupent les salles de cinéma pendant 3 jours. On leur montre les films, d'abord on leur apprend à voir des films sur grand écran et c'est ça qui fera le public de demain, ils iront au cinéma.
Sarah Maldoror ne mâche pas ses mots, elle a choisi son nom, elle a également choisi son mode d'expression, le cinéma. François Piron, bien qu'elle ait commencé par le théâtre, puisque dès les années 50, à Paris, elle fonde une compagnie de théâtre pionnière.
Les Griots, oui, les Griots, qu'elle fonde avec 3 autres condisciples de la Sorbonne avec lesquels elle est inscrite en études théâtrales. Et ils s'inscrivent ensemble à l'école de la Rue Blanche. Ils veulent avoir les rôles qu'ils décident et pas les places assignées des actrices et acteurs noirs dans le théâtre blanc de l'époque. Et ils veulent aussi convaincre des auteurs de leur donner des pièces. Ça va être le cas pour Aimé Césaire et ça va être le cas également pour Jean Genet avec l'adaptation pour la scène des nègres dont on peut prouver effectivement dans l'exposition que Sarah lui a demandé que ce soit la compagnie des Griots qui puisse monter pour la première fois cette pièce.
L'université, la Sorbonne, le quartier latin, la révolution au bord de la Seine, c'est aussi la période, Anouchka d'Andrade, de la rencontre avec votre père, Mario Pinto d'Andrade.
Oui, oui, ils se sont connus à Présence Africaine, qui était donc la première librairie et maison d'édition très très importante fondée par Alun Diop, pour laquelle mon père travaillait et qui a créé le premier congrès des écrivains artistes noirs en septembre 1956. Et Sarah a collaboré à ce congrès, y a assisté et une grande histoire d'amour est née avec mon père à ce moment-là où qu'il y ait poésie et politique.
Et je rappelle que votre père, Mario Pinto de Andrade, n'est autre qu'un militant anticolonialiste, écrivain angolais, qui étudie donc lui la sociologie à la Sorbonne depuis 1954. Il est bien sûr l'un des membres fondateurs du MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Angola. Est-ce que vous avez trouvé trace de toute cette effervescence artistique dans les archives de votre mère, Sarah Maldoror ?
De l'époque, vous voulez dire des années 50 ?
Les années 50.
J'ai pas trouvé grand-chose. Non, puisqu'en plus, sur les photos du congrès, on voit pas beaucoup de femmes. Et la photo où ils sont tous assis, il n'y a que, je crois, Getty Archimède. C'est la seule femme qui est là, alors qu'on a la preuve que Sarah y a assisté et qu'elle y a participé, puisqu'on a retrouvé, et c'est grâce à François d'ailleurs, qu'on a retrouvé à Lisbonne, dans les archives de Mario, le texte de la résolution de ce premier congrès manuscrit de Sarah.
Donc une vraie preuve dans les archives de la présence de Sarah Maldoror, donc en 58 à ce premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris. Donc ça signifie qu'elle a bien participé. C'était ma question suivante, vous y avez déjà répondu. Alors vous le montrez très bien au Palais de Tokyo dans l'exposition que vous consacrez à Sarah Maldoror. Son parcours conjugue l'histoire et la géographie, puisque la marche du monde l'entraîne de Paris à Conakry, puis à Moscou, puis à Alger. Alors Conakry, c'est la Guinée de Sékou Touré, indépendante, radicale. C'est le célèbre non à De Gaulle de 58, qui disait non à la communauté française. Que lui apporte son passage à Sarah Maldoror en Guinée, à l'époque de Sékou Touré ?
Très probablement au moins cette bourse pour aller étudier le cinéma.
À Moscou.
Donc c'est là où ça va très très vite dans la vie de Sarah, c'est-à-dire que juste après avoir convaincu Genet de lui confier sa pièce, elle a déjà quitté la compagnie des Griots, elle a accompagné Mario en Guinée, et c'est de là qu'elle pense que le cinéma, ça va être un outil probablement plus efficace, plus porteur pour porter une parole et pour toucher les gens, faire de ce cinéma une arme, comme elle dit. Et donc c'est en URSS qu'elle va faire sa formation auprès de Donskoï, donc un héritage aussi d'un cinéma des avant-gardes. C'est au début des années 60 qu'elle fait cette formation, et ensuite c'est à Alger qu'elle va réaliser ses premiers films.
En ce qui concerne cette expérience d'école du cinéma à Moscou, elle va se retrouver dans la même promo que Samben Ousmane, le Sénégalais.
Sauf que Samben, lui, il a fait que quelques mois à Moscou, alors que Sarah, elle est restée au moins 2 ans. Elle a été diplômée de l'école. Et elle a choisi Moscou, pas seulement parce que elle avait une bourse, il y avait évidemment cette possibilité-là, mais c'est aussi parce qu'elle était fascinée par le cinéma d'Eisenstein. Et ça se voit dans ses films. Cette manière qu'elle a de filmer est très, très importante, imprégnée par le cinéma d'Eisenstein. Et puis elle a la possibilité de travailler ou avec Bondarchouk ou avec Donskoï, et c'est elle qui choisit de travailler avec Donskoï parce qu'il avait été l'assistant d'Eisenstein. Et surtout, elle dit: Bondarchouk, j'aurais adoré travailler avec lui, mais je savais que jamais je n'aurais ces moyens et toutes les foules qu'il avait pour... C'était d'énormes productions. Donc elle fait le choix de travailler avec Donskoï parce qu'elle dit: avec lui, je pourrais adapter ce que je vais apprendre dans les circonstances dans lesquelles moi, je sais que je vais faire des films.
Donc elle a déjà une idée de ce qu'elle a envie de faire avec cet outil qu'est le cinéma.
Tout à fait, tout à fait. Et le choix de ce directeur d'études en est une preuve.
Après Moscou, comme nous l'a dit François Piron, ce sera... Alger. Alors, chers auditeurs, il faut vraiment essayer de faire un flashback à Alger dans le temps. Après Moscou, c'est pas
non,
Alger.
Non, c'est pas tout de suite Alger. Elles sont allées à Rabat d'abord.
Le Maroc.
Au Maroc.
Elle n'arrête pas de voyager. Alors, le Maroc ?
Pourquoi le Maroc ? Tout simplement pour des raisons politiques, puisque Mohamed V, alors roi du Maroc, décide d'inviter dans le royaume tous les dirigeants des mouvements de libération. Mon père est à ce moment-là président du MPLA, et c'est donc comme ça que la famille s'installe au Maroc. Il reste 1 an et demi, 2 ans, je crois, pas beaucoup. Les dates dans la famille, c'est pas très net. Hein. Il reste, en tous les cas, au moins 1 an et demi, puisque ma sœur naît à Rabat, je suis née à Moscou. Et ensuite, la famille s'installe à Alger, à l'appel, à l'invitation de Ben Bella. Et c'était plus important d'aller à Alger, puisque l'Algérie sortait d'une guerre de libération. Et donc, il y avait tout un appui logistique qu'offrait l'Algérie, que n'offrait pas le Maroc.
Donc c'est très intéressant, parce que vous débarquez, la famille Maldoror de Andrade, à Alger, en 62, dans cette nouvelle nation indépendante qui a gagné son indépendance, qui est vraiment le modèle absolu de toutes les luttes de libération partout dans le monde. Et vous vivez dans un quartier où vous croisez d'autres
révolutionnaire, parce qu'à l'époque, Alger, c'est vraiment la Mecque des révolutionnaires. Vous êtes toute gamine, mais vous avez des souvenirs, Anouchka.
Oui, mais j'ai souvenirs de notre voisin, Eldridge Cleaver, qui était vraiment deux maisons à côté de la nôtre.
Alors là, c'est les Black Panthers.
Là, c'est voilà, des grands
les
dirigeants
Afro-Américains.
Des Black Panthers. On habitait avenue Abdelkader Ziar. Ouais. Et tout au bout de cette avenue, avant d'arriver à la petite plage de la Pointe Pescade, il y avait le poète Jean Sénac, qui venait souvent à la maison et que je me souviens, j'aimais beaucoup aller le voir.
Et j'ai sorti une archive pour vous, Anouchka, parce que je sais que Alger, pour vous, c'est aussi le souvenir d'une grande frustration au moment du festival panafricain d'Alger 69. Vous auriez aimé voir ça. Fait le show, Myriam Makeba, en 69 au Festival panafricain. Et vous, vous êtes folle de rage, vous êtes une gamine très en colère, Anouchka Dandrade.
Ben
pourquoi
oui, parce que je voulais y aller à ce concert, parce que j'avais déjà beaucoup entendu parler de Myriam Makeba, qu'on l'écoutait, peut-être qu'elle était venue à la maison avant, je ne sais pas, en tous les cas, moi je voulais y aller. Et on n'a pas pu, on n'a pas eu le droit de s'y rendre. Et voilà, c'était une grande frustration. Mais du coup, en compensation, on a pu aller accueillir la délégation cubaine qui arrivait juste après et on a pu suivre un petit peu le festival.
Donc, souvenir d'une période heureuse.
Ah oui, très, très heureuse. Alors, je pense que c'est un peu mystifié, mais c'est heureux parce que c'est un moment où j'ai beaucoup de souvenirs, où on était tous les quatre ensemble. Et donc ça, c'est important. Et donc, j'ai des grands souvenirs de tendresse, de repas, tous ensemble. Évidemment, beaucoup de personnes qui vont, qui viennent, mais une vraie maison. Parce qu'après, finalement, on ne l'a plus. On a dû partir précipitamment à Paris. Et ensuite, Mario faisait que des passages plus ou moins longs, mais toujours en clandestin. Même après l'indépendance, il fait d'autres choix de partir et de s'installer en Guinée-Bissau, puis au Cap-Vert. Et donc, du coup, la famille a éclaté après Alger.
En tout cas, Sarah Maldoror, à Alger, elle veut filmer les peuples en lutte en Afrique lusophone. Et elle est soutenue à ce moment-là par le gouvernement algérien. Un an plus tôt, en 68, elle a déjà tourné Monangambi, un documentaire qui défend un cinéma au service justement de la libération de l'Afrique. Un cinéma où elle veut mettre en lumière le rôle des femmes au combat. Et elle en discute avec votre parrain, son meilleur ami, Amilcar Cabral, le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC.
Je suis partie d'Alémak et de la Guinée-Bissau avec l'armée algérienne, la LN, ça s'appelait Armée de Libération Nationale. Et j'ai fait un film, Des fusils pour Bonta. On peut en parler, bien sûr. Bon, j'avais rencontré Amilcar Cabral et je lui ai dit, bon, ben voilà, je vais faire un film, la participation des femmes à la lutte, enfin. Alors il m'a regardé, il m'a dit, il faudrait peut-être aller d'abord dans les maquis pour savoir quelle est la participation des femmes. J'ai cru qu'elles luttaient les armes à la main, qu'elles fonçaient, enfin. Bon, je suis partie dans les maquis, effectivement, les femmes n'avaient pas les armes à la main, mais elles portaient le riz, et elles avaient une très très grande activité. Et je suis revenue et j'ai donc fait un film sur la femme.
Et ce film, Fusil pour Bonta de 71, financé par l'Office national du cinéma algérien, est perdu, Anouchka Dandrade.
Alors, disons qu'on ne sait pas encore où il est.
On lance un appel.
Je ne désespère pas à retrouver la copie et j'espère qu'elle est toujours en Algérie. Et donc, j'espère bien la retrouver.
En tout cas, ce film va marquer la fin de ce soutien de la nation algérienne au cinéma de Sarah Maldoror, un cinéma oscillant entre fiction et documentaire, où Sarah aurait donné trop d'importance au rôle des femmes dans la guérilla. Est-ce que c'est comme ça que votre mère vous a raconté la façon dont elle s'est fait virer d'Algérie, en quelque sorte.
Ben, elle nous a raconté que elle était en train de faire le premier montage du film. Donc, tout était déjà tourné. Hein, et il y a eu une grande discussion avec le responsable de la communication du FLN, qui était donc en charge, et qui, encore une fois, c'est lui qui avait produit le film, sur l'importance et le rôle des femmes, qu'il trouvait beaucoup trop présent, parce que ce film devait être aussi l'apologie de la lutte armée, du rôle des hommes, tout ça. Donc ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il voulait, à ce qu'il attendait. Et d'autre part, Sarah lui dit, mais de toute façon, moi j'ai décidé que, en plus, la musique, je vais prendre la musique de nègre, je veux du jazz. Et là, c'était trop pour lui. Alors, il faut savoir qu'elle avait déjà utilisé du free jazz dans son film précédent, Mon Engambé, qui est une production également algérienne. Et là, il lui dit qu'il n'en est pas question. Et là, elle répond brutalement en disant « Mais c'est mon film, je sais ce que je veux. Vous, vous n'êtes qu'un capitaine de merde. » Or, c'était un colonel et il la menace de mort et lui dit qu'elle n'a donc que 48 heures pour quitter le territoire.
Du coup, le film suivant de Sarah Maldoror, Sambisangar, qui évoque l'arrestation et l'incarcération d'un militant angolais, est financé par la France. Une femme, Maria, cherche son mari partout dans la ville de Luanda.
Hey, Maria.
Toneto.
Dove sta la Nina?
Sto a procurar o meu homem. Quer falar com o seu secretário?
Secretário. Como é, Maria? Fazer como eu disse, não é, Bia?
Sim, Maria, o que é que há? Rápido.
Vem procurar meu homem Domingos Xavier, que você lhe pôs preso.
Domingos Xavier é um bandido, queria matar todos
os... Um bandido, seu secretário, mas como então?
Não discuta, se não queres complicações, volta para Sanzal.
Ai, o Domingos é! O Ami, o Ami! Ai, o Domingos é! O Ami, o Ami!
Cala já a boca essa gaja, senão faz o mesmo que se fez ao homem. Estás a ouvir, Tonete?
Sambisanga, le premier long métrage de Sarah Maldoror. Nous sommes en 1972. C'est un film très important, François Piron, un film que vous mettez à l'honneur dans votre exposition au Palais de Tokyo. Pour quelles raisons ?
C'est clairement un des chefs-d'œuvre, je crois, formels de Sarah.
Qu'est-ce qu'on y voit, justement ?
C'est un film où ça éclaire tout à fait ce décadrage ou ce recadrage qu'elle opère par rapport à l'idée d'un cinéma militant dont la tâche serait de montrer l'oppression. Elle s'oriente beaucoup plus vers donc ce parcours de femme résistante qui recherche donc son mari qui a été arrêté et qui est torturé en prison. Et plutôt que de montrer les atrocités, elle décadre plutôt vers cette déambulation de Maria qui montre plutôt la solidarité, l'éveil des consciences, ce moment comme ça de bascule, de prise de conscience d'un peuple qui voilà va rejoindre le moment historique du début de la guérilla en Angola. Mais voilà, à la description de l'oppression, je crois qu'elle préfère quand même montrer l'émancipation, montrer la solidarité, montrer les principes de vie, les jeux des enfants, les repas, tout ce qui constitue finalement la lutte dans une vie quotidienne.
Et ce qui rend finalement l'usage de la torture encore plus insupportable.
Et absurde, oui.
Anouchka d'Andrade, est-ce que ce film Sambisanga, c'est aussi quelque part un film miroir avec l'histoire de vos parents, c'est-à-dire Sara Maldoror et Mario Pinto d'Andrade?
Oui, d'abord, c'est aussi une de leurs collaborations, c'est-à-dire que c'est une adaptation d'une nouvelle de Londino Vieira que Mario a traduite en français. Et ensemble, ils ont travaillé sur son adaptation au cinéma avec la collaboration de l'écrivain Maurice Pons, qui a travaillé au dialogue. Donc déjà, c'est le fruit de leur travail tous les deux. À plus d'un titre, c'est un film important dans la vie de Sara parce qu'il dit aussi comment Sara a embrasé la lutte de l'homme dont elle partage la vie. Il dit aussi la prise de conscience donc de cette femme, Marie, qui va de prison en prison suivre son mari. Sara a été de pays en pays. Elle a suivi Mario, hein, comme on l'a dit, à Conakry, à Rabat, à Alger. Il dit aussi son rapport qu'elle a avec son enfant quand il est tout le temps sur son dos. Maria se déplace toujours avec lui. Sara se déplaçait toujours avec nous. Et puis, on devait assister aux réunions. On était tout le temps avec elle jusqu'au moment où on a dit non, nous, on ne veut plus te suivre. Donc, il y a l'importance de la politique et puis aussi l'importance de la solidarité. Parce que pour revenir sur ce qu'on disait après, quand on a débarqué à Paris, mais vraiment soudainement, il ne faut pas oublier, Sara, elle était femme, noire, sans aucun revenu. Elle ne pouvait pas justifier de ressources puisqu'elle était cinéaste, artiste. Donc, c'était très, très difficile pour elle. Et elle ne pouvait pas s'appuyer sur son homme puisque lui, il était recherché déjà par Interpol. Donc, elle est arrivée seule à Paris et c'est la solidarité de ses amis qui nous ont permis de nous installer. Donc, Chris Marker, Jean-Michel Arnold, Madeleine Alains, qui ont été très présents avec elle. Donc, ce film est le reflet aussi de ce qu'elle vivait.
Solitude d'une femme, mais aussi
et son combat, son combat et sa persévérance, sa prise de conscience, tout ça, c'est Sara.
Nous retrouvons Sara Maldoror. Elle évoque la question des financements de ses films et aussi sa façon de travailler.
Sambisanga. Alors là, je l'ai fait avec l'argent français, avec l'avance sur recette. J'ai déposé un dossier comme tout le monde et j'ai obtenu une avance sur recette. Je suis partie tourner ça au Congo. Personne n'était des professionnels. J'ai pris les gens sur place, c'est-à-dire je suis allée au Congo et bon, j'ai choisi parmi les guerrieros, comme on appelait à l'époque. Et j'ai choisi une majorité d'Angolais qui étaient là, puisqu'ils étaient à la frontière. Et ensuite, bon, comme femme, j'ai pris Elisa Andrade, qui était du Cap-Vert, qui était du PAIGC, du Parti africain de l'indépendance. Je l'ai pris parce qu'elle était très belle. S'il était diffusé en Afrique, il aurait eu beaucoup de succès. Bon, en France, il a eu un succès, disons, d'estime, parce que je crois que j'ai fait 25 ou 30 000 entrées. C'est rien dans une salle. Mais il a été vu et beaucoup apprécié à l'étranger. Disons qu'à l'étranger, on a donné une plus grande diffusion. Le problème, quand on fait du cinéma, on a besoin d'argent, un minimum. Bon. Il est évident qu'après avoir vu ce film, les Africains n'allaient pas me dire, quand je dis les Africains, les gouvernements africains n'allaient pas dire, oh là là, une cinéaste formidable, qu'elle vienne faire des films. J'étais déjà politiquement marquée. Bon, alors il faut bien que je travaille. Alors, je suis venue en France, effectivement, j'ai fait un film sur Aragon, sur Miro, le Père Lachaise, mais tout de même, j'ai été au Cap-Vert, où j'ai fait quand même deux films pour les Cap-Verdiens. Et je viens de terminer un film sur Wilfredo Lam, afro-cubain, et le théâtre noir. C'est-à-dire que chaque fois que je le peux, je m'arrange toujours pour tourner une nouvelle antillaise ou africaine ou d'Amérique latine. Bon, d'abord, je suis très contente d'avoir travaillé avec Aimé Césaire parce que j'ai beaucoup appris. Mais je pense que j'aurais pu saisir davantage les Antilles. Et il faut dire que c'était la première fois que je suis allée à la Martinique, dont la Martinique m'a complètement échappée. Je pense que quand on a écrit « Cahier d'un retour au pays natal »,« Discours sur le colonialisme », maintenant l'indépendance, bon, elle est là depuis 20 ans. Donc ça paraît facile. Mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même assez fabuleux ce qu'il a écrit. Puis ce sont quand même de très très grands poèmes et de très beaux poèmes. Je trouve d'abord que c'est le plus grand poète africain, africain ou antillais, enfin peu importe, moi je ne vais pas faire de nuance entre les Antilles et l'Afrique. Bon, il est noir, c'est largement suffisant. Et je trouve qu'il a été très important, non seulement pour moi, mais quand même pour tous les étudiants. Alors bien sûr, mon rêve, depuis 10 ans, quand je faisais du théâtre, déjà je rêvais de porter à l'écran, enfin à la scène, et les chiens stésés. J'en avais fait une lecture, ce qui était audacieux à l'époque. Et puis maintenant, bon, le porter à l'écran. Je demande, comme d'habitude, une avance au gouvernement français, une avance sur recette, comme tout le monde. Le roi Christophe, un échec. 1 an après, et les chiens stésés. 2e échec. 3e année, et les chiens stésés. 3e échec. C'est quand même beaucoup. Je dis, bon, je crois que, il me semble que maintenant le gouvernement français, à présent Bizanga, n'est pas prêt à m'aider. Et les chiens stésés, je fais une histoire de la colonisation. Et quelle colonisation! Quel cri! Qui est quand même le cri de Césaire. On ne va tout de même pas me financer. Bon, je demande à la France de me financer parce qu'après tout, tout le monde demande. Bon, ben j'ai un refus. Alors, en attendant, je travaille pour les affaires étrangères, je me perfectionne ma technique, j'apprends, je fignole mon travail en faisant des courts-métrages sur Aragon, Le Père Lachaise, Miro et ainsi de suite.
La voix de Sarah Maldoror au micro de Maryse Condé, une archive RFI de 1980, où elle explique ses déboires. Quel regard portait-elle sur sa vie et sur son œuvre, Anouchka Andrade ?
À la fin, elle était très défaitiste. Elle disait qu'elle avait le sentiment d'avoir tout raté, sauf ses filles. Mais c'était très triste. Et je lui disais que non, regarde, t'as fait des films. Oui, mais bon. Elle s'est beaucoup battue, elle a été très optimiste malgré tout. Elle a surmonté énormément d'obstacles toute sa vie. Et à la fin, bon, ben, quand elle regardait derrière, elle avait un grand sentiment d'échec.
Et quand elle travaillait, elle l'évoquait dans cet entretien avec Maryse Condé, elle travaillait avec des professionnels, mais aussi avec des non-professionnels.
Oui, oui, là, c'est ce que je voulais préciser. Son équipe technique était de vraiment très grands professionnels. Hein. C'était Claude Agostini à l'image et Jean-François Robin, Georges Klotz au montage. Donc l'équipe technique, elle était très, très bien constituée. Par contre, ce sont les comédiens qui étaient tous des non-professionnels. Et donc, elle a mélangé des militants du MPLA et des Congolais, puisque le film est tourné au Congo. C'était assez quand même périlleux, en tout cas avant-gardiste de sa part, d'avoir mélangé tous ces non-professionnels et chacun s'exprimer dans sa propre langue. Donc, dans Sambizanga, on a dans un même dialogue, une personne qui parle en kimbundu, l'autre qui répond en portugais, un autre qui répond en lingala. Et pour elle, c'était important que chacun puisse s'exprimer dans sa propre langue pour donner un peu plus d'arriver à toucher l'intime et d'avoir une plus grande véracité dans les propos.
Alors on a parlé des déboires, elle-même les a évoqués, mais parlons aussi de ses victoires, puisqu'elle rend hommage à son grand ami Aimé Césaire, auquel elle a consacré plusieurs documentaires, et vous montrez des extraits de ces documentaires au Palais de Tokyo, François Piron.
Bah, il me semble d'ailleurs que c'est le premier documentaire consacré à Aimé Césaire pour la télévision française, qu'elle tourne donc avec lui en 76, je crois que c'est diffusé en 77, et ce sera le premier d'une série qui se poursuit jusqu'à la mort de Césaire. C'est un entretien où on voit leur connivence et on voit qu'il y a une conversation continue qu'ils mènent. Il y a des choses vraiment très intéressantes qui se disent dans ce documentaire, notamment sur comment Césaire considère encore le surréalisme à cette époque-là comme un outil de lecture de la négritude. Et également comment il adresse quand même la situation coloniale, qu'on pourrait appeler le continuum colonial dans les Antilles après la départementalisation.
Après 1946. Donc elle avait beaucoup de principes, Sarah Maldoror. Votre maman, elle ne voulait pas, par exemple, que ses enfants jouent dans les films, mais néanmoins, vous avez lu des poèmes de Césaire pour les films de votre mère, Anouchka.
Ah oui, oui. C'était ma manière de quand même de rentrer.
De rentrer dans
J'avais trouvé
du film.
Ça et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Là, vraiment, j'ai beaucoup aimé pouvoir lire de la poésie et donc d'être avec elle quand même.
Et nos auditeurs me connaissent, évidemment, je vous ai proposé de reprendre un poème de Césaire.
Et donc c'est un extrait du cahier d'un retour au pays natal, donc le même extrait que je dis dans son film Le Masque des mots. Donnez à mon âme la trempe de l'épée, je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue et de moi-même mon cœur. Ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allongé du bras. Faites-moi commissaire de son sang, faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison, faites de moi un homme d'initiation, faites de moi un homme de recueillement, mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement.
Anouchka Dandra, d'un extrait donc du cahier d'un retour au pays natal. C'est votre livre de chevet ?
Non, mais ça pourrait l'être.
Et en tout cas, je sais que, évidemment, vous affectionnez les documentaires sur Aimé Césaire de votre mère, mais vous avez un sérieux penchant pour le portrait aussi de Léon Gontran Damas. Et j'ai beaucoup aimé la proposition de François Piron de cet extrait, à en parler de poésie politique. Donc écoutons dans ce documentaire comment Sarah Maldoror questionne la jeunesse guyanaise sur les poètes étudiés à l'école.
Quels sont les poètes que vous aimez?
Victor Hugo, La Fontaine... Baudelaire. Bon, je n'en ai pas tellement beaucoup.
Et vous?
Bon, j'aime la même chose. Je ne suis pas très fan pour les poètes.
Ni moi.
Et vous, qu'est-ce que vous aimez comme poète?
Victor Hugo.
Et en poète
guyanais? Stanislas, Cantou.
Et puis encore,
Poète
que vous apprenez à l'école.
À l'école, on apprend des poèmes de poètes français.
Et vous n'apprenez pas des poètes guyanais?
Ça dépend.
Mais
ça dépend. Ça dépend avec quel professeur.
En primaire, ça dépend pas au collège.
Parce que nous, on n'apprend pas de poètes guyanais.
La poésie politique de Léon Gontran Damas n'est pas enseignée aux étudiants, aux élèves. En Guyane, extrait du portrait de Léon Gontran Damas, signé Sarah Maldoror. Sarah Maldoror, très préoccupée par la transmission de son travail, et ça a été d'emblée votre proposition d'exposition, François Piron, de permettre à des artistes contemporains de s'emparer des chants de Sarah Maldoror.
La manière de penser l'exposition, elle est tributaire de la manière dont on pense, Cédric et moi. Donc on travaille dans le champ de l'art contemporain, et c'est à travers les formes qu'on essaye de créer des dialogues et des parcours. Puis il y a toute une part aussi de commandes artistiques qu'on a passées à des artistes. Donc là, il y a quelque chose davantage de l'ordre du pari et du dialogue qui s'établit avec ces artistes dans leur langage propre, qui peut être de la peinture, de la sculpture. Ça permet à la fois d'ancrer l'exposition dans le présent, et puis également d'avoir un éclairage plus oblique qui révèle, on le croit, davantage de relief dans l'œuvre de Sarah que la lumière crue de la biographie.
Alors on écoute justement Anatché au micro de Dauphine Moreau au sein de l'expo au Palais de Tokyo.
Bonjour, je m'appelle Anna Tché, je suis artiste transdisciplinaire et chercheuse.
Est-ce que vous pouvez décrire un peu dans quel espace et quel espace sonore on se trouve actuellement ?
L'espace sonore dans lequel on se trouve, c'est globalement l'espace de toute l'exposition Sarah Maldoror Cinéma Tricontinental. En fait, ce qui est intéressant dans cette expo, c'est que plusieurs images et plusieurs sons se rencontrent. Et là, on est plus proche d'un espace sonore qui est l'installation que j'ai effectuée, qui s'appelle des Safou pour les Bayam Selam. En fait, Déjà, pour vous la décrire, elle est constituée de 6 socles en acier sur lesquels se trouvent des vasques en inox dans lesquels il y a des céramiques. Et ces céramiques-là représentent mon interprétation, disons, de prunes, des fruits que j'achète à Château Rouge, dans le quartier voilà, de la Goutte d'Or à Paris. Et pour cette installation, j'ai décidé de faire une offrande au Bayam Selam, aux vendeuses et vendeurs de Safou à Château Rouge, mais pas que, aux habitants en règle générale de Château Rouge, et puis bien sûr à Sarah et toute sa constellation. Des Safou pour les Bayam Selam, c'est pour moi une manière de convoquer non seulement l'esprit de Sarah Maldoror, mais aussi ses idéologies, son langage aussi artistique, particulièrement autour de la fiction documentaire. L'idée, c'était principalement également de perpétuer en fait sa démarche artistique et sa démarche politique. Donc cette offrande qu'on voit là à travers ces 5 socles qui sont un peu comme des trônes, elle représente en quelque sorte aussi cette rue où j'achète ces safous. Elle a aussi une symbolique particulière autour du travail, de la condition de marchand ou marchande. Alors, ce n'est pas forcément ma condition, mais moi, dans ma famille, nombreuses ont été les Bayam Selam, y compris ma grand-mère, Marie Tchatchad, qui était révolutionnaire indépendantiste au Cameroun, et au-delà des frontières du Cameroun, car elle a fait pas mal de pays du fait de son exil. Quand elle était notamment en Guinée-Conakry, elle était Bayam Selam, c'est-à-dire acheteuse-revendeuse, pour subvenir à ses besoins et en même temps pour aider ses camarades indépendantistes. J'aime à penser que toute personne qui fait des Bayam Selam, quelque part, travaille à sa propre révolution ou même se mobilise pour une révolution bien, bien plus large. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment ce capital-là participe à ça, d'une manière très cachée, d'une manière, si ce n'est pas caché, c'est d'une manière vraiment sous-jacente et très discrète. Pour accompagner justement ces céramiques, il y a du son. J'ai effectué une création sonore. On entend quelques bruits du marché où j'achète des fruits et où je donne des sculptures, parce que du coup j'ai aussi fait des offrandes à la rue et aux habitants et aux vendeuses. Et il y a aussi, dans cette création sonore, un peu de Sarah Maldoror, où justement on entend deux de ses vinyles. Donc un avec des chants révolutionnaires du Frelimo, le Front de Libération du Mozambique, et un autre avec la chanson Saudade de Mora Bezar Records, voilà, qui est une maison de disques, un label du Cap-Vert. C'est un hommage, bien entendu, à Sarah Maldoror, mais au-delà de l'hommage, c'est aussi un appel à la lutte, en fait. Un appel à continuer, à réfléchir, à se mobiliser pour cette révolution qui dure depuis trop longtemps et en même temps qui demeure actuelle.
Puissante archive que ces chants révolutionnaires du Frelimo, le Front de Libération du Mozambique, dans la précieuse discothèque de Sarah Maldoror, qui avait accepté d'être interviewée par RFI en 2019 via sa petite fille Clara. C'est notre dernière pépite sonore entre les oreilles de nos invités, François Piron et Anouchka Deandrade.
Alors, Mamie, moi, je voudrais savoir comment le fait d'être noire a influencé ton parcours. Je te pose cette question parce que moi j'y suis confrontée, mais que je me suis rendu compte que j'étais noire très tard. Mais du coup, j'ai aussi un regard particulier parce que toute mon enfance, j'en étais pas consciente. Et je te pose du coup cette question parce que je voudrais savoir comment est-ce que toi, tu as fait pour vivre et pour justement pouvoir tenir ce discours aujourd'hui qui est de dire « je suis noire, je suis née noire, c'est moi, c'est comme ça », alors que on est noir aussi parce que l'autre nous identifie comme tel.
Ce que l'autre pense de moi parce que je suis noire, ça m'est alors, madame, mais parfaitement égal. Je m'en fiche royalement. Elle ou il peut penser ce qu'il veut. Si vous êtes noire, imposez-vous en tant que noire. Et ne vous occupez pas de ce que la blanche pense. C'est chacun doit dire « je vis ». Je veux vivre, je suis noire, je l'accepte.
De grand-mère en petite fille, transmission en sol majeur, extrait de l'émission du Yasmine Chouaki. Sacré héritage que celui de la radicalité de Maldoror pour ses filles, pour ses petites filles, Anouchka, et ce seront nos derniers mots.
Oui, c'est un sacré héritage. Ça a été difficile de se construire avec les deux parents, Mario et Sarah. Ça n'a pas toujours été évident d'exister, de savoir où se positionner. Puis c'était deux personnalités écrasantes par leur activité, par leur manière d'être, par leur engagement politique. Et pas seulement, mais en même temps, eux, ils ne nous ont pas du tout écrasés. On avait un grand espace de liberté, mais bon, pour nous, ça a été... Enfin, je peux surtout parler pour moi, plus que pour ma sœur, Enda dirait peut-être autrement. Mais aujourd'hui, on a compris que c'était une immense chance. Au départ, enfin, quand on était enfant et ado, c'était difficile parce qu'ils étaient tellement différents des autres et que, comme tout enfant, on avait envie d'être comme les autres. Donc, c'était difficile. Et puis, on ne parlait pas de notre père parce qu'on savait qu'il était recherché. Donc, voilà. Et d'avoir une mère cinéaste à Saint-Denis, ce n'était pas évident. On n'avait rien à voir avec le milieu dans lequel on a évolué. Et puis, petit à petit, on a compris que c'était une chance inouïe, que ça faisait partie de nous. Et maintenant, tout ce que l'on veut, Enda comme moi, c'est de faire vivre et de valoriser leur mémoire, qu'elle puisse être transmise. Et c'est pour ça que cette exposition qui est arrivée juste après son décès, c'était formidable, puisque ça nous a permis, je parle pour moi, et c'est pour ça que je leur dis merci encore une fois à Cédric et François, c'est que ça nous a permis de faire notre deuil et de passer dans la création. Et ça, c'est formidable. De savoir que maintenant, il y a de jeunes artistes qui se réapproprient son travail et que ça va continuer. Donc, voilà.
François, est-ce qu'elles ont hérité, les sœurs Andra, de l'intransigeance de leur mère, d'un mot, vous qui les avez fréquentées pour l'exposition?
D'un mot, l'exposition n'aurait pas pu se faire sans la complicité, sans la connivence avec Enda et avec Anouchka qu'on a vue tout du long. C'est aussi une exposition du confinement. C'est une exposition fabriquée en 2020 dans des circonstances très particulières.
Ma question, c'est est-ce qu'elles sont aussi intransigeantes que leur maman?
Oui, je pense. Oui, je pense qu'elles sont aussi tranchantes et drôles.
Il a dit oui. Merci Anouchka de Andrade, merci François Piron. L'exposition Sarah Maldoror, Cinématrique Continentale, c'est au Palais de Tokyo à Paris jusqu'au 20 mars 2022. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon, Sophie Janin et Dauphine Moreau. Réagissez sur nos réseaux sociaux, La Marche du Monde sur Twitter, sur Facebook. Exprimez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre. Religion du monde.